entretien, partage avec des personnes ressources, des affaires, des organisations, toute catégorie de compétences sur Radio Neovie Africa.
Eh bien, chers auditeurs, nous recevons pour vous dans cette émission Triangle sur Radio Neovie Africa le docteur Juste Kojo, ancien officier supérieur des forces armées béninoises, avec plus de 2 décennies d'expérience, actuellement professeur de stratégie et de sécurité internationale au Kentucky University et au American University. Donc, c'est son domaine de spécialisation en conflit et rébellion armée. Voilà, il sera avec nous dans cette émission. Il a accepté, malgré son programme assez chargé ces derniers temps, il a accepté d'être avec nous dans cette émission, comme nous traversons une crise très sérieuse sur le plan socio-politique au Bénin, et une situation qui préoccupe la diaspora béninoise. Plusieurs personnalités ont présenté leur analyse par rapport à ce conflit, à cette crise. Il a publié tout dernièrement une réflexion par rapport à cette crise. Alors, il a accepté d'être avec nous. Et nous allons revenir tout à l'heure pour lui permettre d'abord de nous saluer sommairement, et on rentre dans le vif de l'entretien. Merci d'être avec nous, et merci à notre cher ami d'être avec nous. Merci, on revient. Alors, professeur, juste merci d'être venu, merci d'accepter notre invitation dans cette émission, et nous sommes très honorés de vous avoir avec nous malgré vos multiples et charges, préoccupations, et vous avez accepté aussi d'être dans cette émission pour réfléchir et présenter votre analyse, vos réflexions publiées dernièrement et par rapport à la situation socio- et politique au Sénégal. Au Bénin, voilà. Et merci d'être venu. Et donc, Juste Kojo, docteur Juste Kojo, commandant Juste Kojo, et il a toutes les qualifications et tous les titres, et un brillant officier devenu professeur et à l'université, dans l'université. Et ça dit beaucoup de choses, docteur Juste.
Bonsoir Gabin, bonsoir à aux auditeurs et aux auditrices. C'est avec plaisir que je vous rejoins ce soir. C'est bien la première fois que j'interviens sur la chaîne, alors c'est un grand plaisir d'être ici en ce mois. Écoutez, les titres, c'est vrai qu'au Bénin, nous avons un amour fou pour les titres, mais bon, on peut vraiment s'en passer. L'essentiel, c'est que nous puissions apporter quelque chose de consistant à notre cher pays, surtout par cette plan qui court. Donc, merci de me donner cette opportunité.
Merci, docteur. Merci d'être venu. Alors, nous entrons directement dans l'analyse, la présentation de votre analyse, de votre protection. Situation et sociopolitique au Bénin, crise préélectorale au Bénin, votre point de vue en tant que chercheur en sécurité et vous, que voulez-vous nous dire principalement, monsieur le docteur Juste?
Alors, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que pendant longtemps, je me suis abstenu d'intervenir sur les questions d'ordre politique au pays. Je veux parler des questions d'actualité. J'ai eu plusieurs recours, plusieurs demandes d'entretien que j'ai déclinées. Mais face à la situation actuelle, je ne peux continuer de m'abstenir parce que nous traversons une période critique qui, malheureusement, n'est pas toujours perçu ainsi parce que, évidemment, en fonction de votre position, vous allez apprécier la situation différemment. Mais de ma position de chercheur, ayant examiné des décennies d'interactions politiques sur les 191 pays ou près de 200 pays qu'il y a dans le monde, je peux vous dire que ce que nous observons en ce moment au Bénin devrait préoccuper plus d'un. Alors, ce qu'il faut retenir de mon analyse, j'ai voulu utiliser un exemple concret pour illustrer simplement la relation de cause à effet qui existe entre l'exclusion politique sous la forme de stratégie électorale et les conflits armés. La Côte d'Ivoire est un exemple parmi tant d'autres, ce n'est pas le seul exemple. Et donc, l'alerte que je donne en ce moment n'est pas fondée, n'est pas seulement fondée sur l'analyse de la situation ivoirienne. C'est une analyse qui a été étendue à bien d'autres cas, mais le cas ivoirien, puisqu'il nous est beaucoup plus, il est plus proche de nous et nous savons un peu plus, nous en savons un peu plus que sur les autres cas, j'ai voulu l'utiliser, illustrer, comme je dis. Alors donc, il faut faire cette différence, cette distinction-là. Maintenant, on peut parler des détails, mais indépendamment des détails, le cours de l'histoire dans ce pays voisin et dans bien d'autres pays montre que lorsque vous utilisez comme stratégie électorale une technique d'exclusion, elle finit toujours par rattraper la société. Certainement pas dans l'immédiat, comme je l'ai dit dans l'analyse, l'exclusion tend à produire des bénéfices immédiats à ceux qui l'utilisent. Malheureusement, ces bénéfices s'obtiennent au détriment de la paix future. Je dis bien future. Et je ne peux ici prédire dans combien de temps cela aura des conséquences, mais une chose est évidente, elle finira par avoir des conséquences. Parce que ceux-là qui utilisent cette stratégie aujourd'hui pourraient se retrouver de l'autre côté demain face à des gens qui utiliseraient aussi la même stratégie. Bref, cette stratégie devient un peu, quand vous érigez ça en précédent, ça veut dire qu'à tout moment, tous les autres peuvent en faire usage et à des moments donnés, nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a que le chaos qui devient un peu comme l'issue inévitable. Et c'est ce qu'il faut éviter, justement.
Voilà, merci docteur. Nous allons revenir. De toute façon, il faut que je revienne. Merci. Voilà, nous recevons pour chers auditeurs dans cette édition Triangle le docteur Juste Kodjo qui a accepté d'être avec nous sur l'analyse de la crise sociopolitique au Bénin. il a sorti un document, il a sorti une réflexion, je veux dire, et qui porte essentiellement sur cette analyse, sur les risques que court ce pays en allant dans ce sens de la décomposition du système politique. Alors, il s'inquiète du cas précédent dans la sous-région, et donc il nous a très bien illustré avec le cas ivoirien. Donc maintenant, nous, docteur, nous avons depuis un certain temps observé une certaine tension entre les deux parties actuellement, et le code électoral qui a été taillé sur mesure, certains disent, et qui n'est pas favorable à l'opposition. Et dernièrement, il a fallu l'intervention du président Talon pour essayer de créer une porte de sortie, ou de viser, ou d'orienter l'Assemblée vers une porte de sortie de crise. Et malgré tout cela, on continue depuis quelques jours de traverser, d'envenimer la situation au niveau de l'Assemblée. Et vous pensez qu'il y a justement une solution pour une crise pareille?
Oui, absolument, il y a toujours des solutions. Mais il faut comprendre les fondamentaux de la crise. Si ce que je dis, depuis le début, je fais référence au terme exclusion politique comme en guise de stratégie électorale. C'est le nœud, ça. Si c'est une stratégie électorale pour des élections législatives, vous comprendrez que le président de la République n'est qu'un maillon de la chaîne qui serait impliqué dans ces élections. C'est vrai que dans un monde, enfin, d'ordinaire, le président de la République pourrait avoir une certaine emprise sur ses supporters au Parlement, et donc pourrait, a priori, essayer de faire passer son message et obtenir une adhésion de ses supporters. Malheureusement, quand il s'agit de stratégie électorale pour les législatives, ce n'est pas que le président de la République qui a son intérêt en jeu, c'est aussi tous ses parlementaires qui ne voient en ces élections que la seule issue pour eux. Alors, lorsque les tentatives de règlement de la crise occultent cet aspect, vous allez perdre du temps, vous allez tourner autour du pot, un peu comme on dit, mais les véritables acteurs qui voient leur intérêt menacé ne vont pas coopérer tant que vous n'allez pas les inclure dans la procédure de résolution de la crise. Alors, je veux croire ici que dans le cas d'espèce au Bénin, il y a eu des démarches en direction du président de la République, en direction de partis dits d'opposition, mais je vois très peu d'actions en direction des membres de la majorité parlementaire. Parce que,
C'est ça.
à la fin, un peu comme on dit, au finish, c'est eux qui vont devoir adhérer à n'importe quelle solution qui aurait été trouvée. Voyez-vous. Et donc, parce que eux, ils voient la stratégie électorale du moment la meilleure forme pour eux pour garantir leur retour à l'Assemblée. Et lorsque vous voulez changer cette stratégie sans les impliquer, si le chef de l'État le fait sans les impliquer, il va évidemment se voir confronté à une résistance du côté du Parlement. Et apparemment, c'est ce que nous observons en ce moment. À moins de trouver un moyen d'impliquer ces acteurs au niveau du Parlement, de leur donner des garanties, à moins de leur donner des portes de sortie ou des ouvertures possibles, je ne vois pas comment cette crise pourra être résolue. Ce que je dis ici est profond, parce que c'est ce que, si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire que j'ai donné, c'est à dessein que je l'ai fait. Je suis parti des tractations de 1994, et ce n'est qu'en 1999 que nous avons vécu la première grande conséquence de cette tractation, donc 5 ans après. Et puisque cet incident de 1999, notamment le coup d'État, n'a pas résolu le fond du problème, ils sont revenus à la charge 3 ans après, en 2002. Donc, pour dire, un problème qui a été créé en 94 n'a eu de véritables conséquences que 5, 8 ans après. Alors, ce que nous observons, ou ce que nous avons observé en 94 en Côte d'Ivoire, c'était autour de cette histoire d'ivoirité. À un moment donné, le président Bédié était prêt à modifier les nouvelles dispositions qui instituaient l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Mais la grande résistance qu'il a trouvée était au niveau du Parlement. Et donc, c'est par concession au Parlement que finalement, d'ailleurs, cette mesure a été étendue et étendue aux étrangers, pas seulement pour les présidentielles, mais aussi pour les législatives. Et donc, c'est ça le nœud de la question, voyez-vous. Et tant que vous n'avez pas réglé ça, cette question de fond, parce qu'actuellement, il est un fait que beaucoup d'acteurs parlementaires estiment que la stratégie du moment, le forcing du moment qui est apparemment en cours, est leur seule voie de succès. Et à moins de leur trouver des alternatives. Et là, c'est pour ça que je dis, il appartiendra au chef de l'État d'exercer un type exceptionnel de leadership. Mais aussi, il faudra que l'ensemble de la classe, pas seulement de l'ensemble de la société, qu'elle soit interne ou externe, exerce aussi une certaine pression sur ces acteurs parlementaires. Parce que c'est là que se trouve le nœud de la crise. Si le président de bonne foi décide d'aider à dénouer, a priori, il va avoir un ralliement, mais je doute que ce soit un ralliement total, voyez-vous. Et donc, je crois que ceux qui sont impliqués savent de quoi je parle. A priori, nous qui sommes dehors ne maîtrisons pas toujours cette dynamique-là, mais ceux qui sont à l'intérieur et qui sont directement concernés, ils le savent. Et donc, moi, je crois qu'il est temps, il est important qu'on essaye d'être réaliste un peu dans la recherche de solutions. Je n'ai pas la solution exacte parce que je ne suis pas impliqué dans le processus. Je ne maîtrise pas quelles sont les positions exactes des uns et des autres, mais même du dehors. Et de mon point de vue de spécialiste, je me dis que le nœud sera au Parlement.
C'est ça. Merci. Et docteur, on revient. Crise sociopolitique au Bénin et une analyse du docteur Juste Kodjo dans cette émission Triangle. Les lignes ont du mal à bouger au niveau de l'Assemblée, même après la sortie du président Talon et sur les possibilités de solutions et avec l'assouplissement de sa position visiblement accueillie par les populations, une démarche qui lui a permis de rencontrer certaines personnalités de la classe politique. Et le peuple béninois attendait que les lignes bougent, mais depuis, ça ne bouge pas. Et pour certains, il serait encore plus facile de régler ce problème en proclamant la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que c'est possible dans un cadre pareil, docteur?
Je crois que ça ne ferait qu'aggraver la situation, à mon avis, parce que d'abord, ce serait un précédent assez lourd et grave. Et deux, le contexte juridique béninois, je ne sais sous quelle forme une telle dissolution pourra être prononcée et par qui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut rechercher au niveau du Parlement des pistes de solutions. Parce que si vous faites, c'est-à-dire autant ceux qui sont du bloc majoritaire, comme on dit, souhaitent faire du forcing. Si vous imposez aussi une solution de forcing, ça veut dire que vous ne faites qu'aggraver la situation, voyez-vous. Et donc, il faut pouvoir trouver la formule. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il va être difficile de rallier ceux qui voient en l'exclusion une opportunité politique. Ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a le chef de l'État a des possibilités d'offrir des voies alternatives à ces gens. Il n'y a pas que le Parlement pour eux. L'essentiel, c'est de leur garantir des issues, voyez-vous, au cas où, parce que la crainte, c'est quoi? Au niveau des parlementaires, du moins, en tout cas, du moins. La crainte, c'est que en incluant tout le monde dans la compétition, ils pourraient ne pas revenir au Parlement. Alors, si c'est ça leur crainte fondamentale, il appartient donc au chef de l'État et à tous ceux qui ont en charge la gestion du pays de trouver des terrains d'atterrissage, si vous voulez, un peu pour parler terre à terre, pour ces gens, s'ils revenaient, s'ils ne revenaient, ils ne retournaient pas au Parlement. Donc ça, c'est une première piste. La deuxième piste, ou ce que je dirais, la deuxième possibilité, si cette tentative de passing, de forcing est aussi due au fait que le chef de l'État a peur de perdre sa majorité au Parlement, bon, là, ça veut dire que la solution se retrouverait beaucoup plus à son niveau qu'au niveau des parlementaires. Dans les deux cas, je crois qu'il faut il faut que les deux, et le chef de l'État et la majorité au Parlement, soient convaincus que nous sommes actuellement dans une situation où, si nous continuons ainsi, nous sommes en train de préparer le terrain pour un chaos futur. J'insiste sur le futur parce que beaucoup de gens, quand ils regardent le contexte d'aujourd'hui, pourraient ne pas voir la possibilité d'un chaos, voyez-vous. Mais parce que ce n'est pas parce que le chaos n'est pas immédiat, n'est pas possible dans l'immédiat, qu'il ne sera pas possible dans un moyen terme ou long terme. Toujours à partir des précédents que nous aurions posés aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on fait, tant dans la résolution de la crise que dans la mise en œuvre des solutions à venir.
Voilà. Merci, docteur. On revient tout de suite.
Min fɔ wɔlɔna bɛrɛw ye fanga bɛn ka kɛ kelen ye kɛlɛlen siɲuman fila fara la.
Voilà, et des démarches ont été engagées et dans le cadre de la résolution de cette crise sociopolitique au Bénin. Plusieurs personnalités ont faire le déplacement des institutions de la sous-région, les Nations Unies, la CEDEAO, les amis du Bénin se sont impliqués. Le président Talon s'est penché vers les anciens de la nation, les anciennes personnalités telles que le président Nicéphore Soglo. Et à cette rencontre, on a eu un message qui était considéré comme la fumée blanche qui devrait déjà, et pour certains, la sortie définitive de cette crise. Et maintenant, les choses sont encore en blocus à l'Assemblée. Et pour le docteur, il faudrait effectivement, il faudrait aussi faire une démarche vers la majorité parlementaire. Et Alors, quels sont les conseils que vous pouvez aussi donner à la minorité parlementaire?
Alors, la minorité parlementaire doit aussi comprendre que, en tant qu'acteur politique, ils doivent comprendre qu'une résolution de la crise ne peut être que politique. Et ils doivent aussi, s'ils comprennent un peu mon raisonnement, le raisonnement que j'ai mené jusqu'ici, ils devraient être en train aussi, dans les coulisses, de démarcher des membres de la majorité parlementaire. Parce que, écoutez, tous ces gens ont travaillé ensemble dans un passé récent. Ils ont mangé ensemble à la même table dans un passé récent. Ils ont mangé dans le même plat dans un passé récent. Alors je veux croire qu'il y a encore des liens qui sont là. Et les deux, et la minorité et la majorité, doivent savoir que demain, la situation pourrait aussi changer, où ils vont se retrouver encore à manger à la même table. Et donc, au vu de ça, au-delà des tractations que nous voyons dans le domaine public, ils se doivent d'user de tous leurs liens privés, je parle de la minorité, pour aussi tendre la main à la majorité, parce que, au final, c'est là, comme je dis, que se jouera la résolution de la crise. S'ils attendent, si la minorité attend de dialoguer simplement avec le chef de l'État, et attend que le chef de l'État, en retour, fasse rallier sa majorité, je crois que ça ne fait que la crise ne fera que perdurer.
C'est ça.
En matière de stratégie, il faut pouvoir être en mesure de jouer sur plusieurs, de tirer sur plusieurs fils à la fois. Encore que, jusqu'ici, j'ai mené un raisonnement pour dire que j'ai supposé, ma prémisse, c'est que le chef de l'État a accepté de bonne foi de faire des ouvertures. OK? Je pourrais me tromper. Je pourrais me tromper comme quoi le chef de l'État, peut-être, ce n'est qu'une façade. Et si c'est le cas, ça veut dire que la minorité doit rechercher des pistes alternatives. Et cette piste alternative, l'une de ces pistes alternatives, justement, serait de démarcher, un peu comme on dit en langage terre-à-terre, démarcher la majorité parlementaire, contourner un peu le chef de l'État, tendre la main à la majorité parlementaire dans les coulisses, parce que, comme je dis, tous ces gens ont mangé à la même table dans un passé très, très récent. Donc, il doit y avoir des possibilités. Et comme je dis, ils sont sur un terrain politique. Ils peuvent se faire des concessions mutuelles au plan politique, quitte à donner une certaine garantie à certains membres de la majorité parlementaire qui seraient prêts à être, comme on dit souvent, à être à modérer, des modérés un peu. Parce qu'il y a les extrémistes toujours dans chaque situation, mais il y a aussi toujours des modérés. Donc il faut identifier les modérés, leur donner des garanties, leur donner des assurances. Et puis, bon, je crois qu'une coalition pourrait se former. Et c'est seulement à cet instant qu'on
C'est une
pourra trouver
stratégie.
une issue. Voilà, absolument. Maintenant, malheureusement, ça fait, comme je dis, je parlais là en stratège, voyez-vous. Mais le contexte béninois actuel est un peu délicat. Parce que c'est vrai, j'ai dit, tous ces gens ont mangé récemment ensemble, ils étaient du même côté ensemble. Mais aussi, il s'est installé au fil des ans une certaine crise de confiance. Et ça, c'est un point important. La crise de confiance au Bénin est profonde, voyez-vous. Or, en matière de coopération ou de stratégie, si vous voulez, c'est la base. La confiance est la base de toute négociation. C'est la base de la résolution de n'importe quelle crise. Voyez-vous.
Et dans ce cas,
Oui.
il faut des concessions.
Dans ce cas, oui, il faut le consensus, mais malheureusement, s'il y a crise de confiance, vous comprenez que les acteurs auront du mal à accepter un deal qui vient de l'autre côté parce qu'ils ne se font plus confiance. Voyez-vous? Et donc, la seule solution, c'est qu'un acteur, une tierce personne ou une tierce organisation avec suffisamment de crédibilité, qui pourra donc rallier les deux camps. Parce qu'à l'étape telle que je vois les choses, ils ne se font plus confiance. Ni ceux de la majorité entre eux, ni entre la majorité et la minorité, Et là même, on va maintenant dans une situation où la classe politique de plus en plus manque de confiance aux institutions, à nos institutions. Voyez-vous, la Sénat, qui jusqu'à un passé récent avait quand même beaucoup de légitimité, aujourd'hui semble être de plus en plus décriée. Et ce n'est pas bon pour la cohésion sociale, parce que cette crise de confiance, elle va avoir des conséquences assez graves lorsqu'il va avoir une crise. S'il n'y a personne, s'il n'y a aucune institution dans le pays qui inspire légitimité et confiance, ça veut dire que au petit problème, lorsqu'on aura un tout petit problème, la dégénération, l'escalation peut se faire facilement. Ça peut facilement, la situation peut facilement basculer, parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur du pays qui puisse tenir chacun dans une position raisonnable. Voilà pourquoi il faut travailler à rétablir, dans la mesure du possible, une certaine confiance. Parce que là, je crois que sans ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir.
Merci, on revient. Bédé, panégano yola me vono ikwa Baziza kawazon dada edo bene lesin randimi Bon wabo wadago lo mlaku wagede Sunu boche khoji to dugbe rame Sawin ya khosada Adama dolo jeto akwa hane khamane Unkonu bo mala ikaya Lo mala chekho bo mala toli O maki toko o ito debo O dodo tonda do tengun me bewe ranche jalo
Voilà, et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous recevons pour vous Dr Juste Kojo, et qui a accepté de nous entretenir par rapport à cette crise socio-politique au Bénin, les risques que court ce pays et les dangers qui sont dans les grands enjeux. Voilà, et ces approches de solutions sont bien illustrées par des exemples. Et la démarche vers la majorité parlementaire, le repositionnement ou l'assouplissement de la position de la minorité parlementaire, et quel est votre conseil à la population?
Au peuple béninois, ce que je peux conseiller, c'est de rester vigilant. De rester vigilant et de toujours se rappeler que tous ces acteurs, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas si longtemps, mangeaient à la même table. Tous ces acteurs mangeront encore à la même table demain si la situation change. Et donc, de faire attention, d'essayer d'éviter de se faire manipuler, mais comme je dis, c'est plus facile à dire, voyez-vous. Dans la réalité, elle est autre. La réalité est autre, comme je dirais. Parce que l'un des défauts d'une stratégie électorale fondée sur l'exclusion, c'est quoi? C'est qu'elle rallie les supporters et au même moment, elle rallie les opposants. Voyez-vous, ceux qui sont exclus se sentent unis par cette exclusion. Et ceux qui profitent de l'exclusion se sentent aussi unis par cette exclusion. Donc, il y a une polarisation qui s'établit et qui est dangereuse, parce que les deux camps n'ont aucune raison d'écouter la raison, si vous voulez. Et c'est là le danger de l'exclusion, parce qu'elle établit deux camps polarisés et qui sont prêts à s'affronter. Et c'est là que le peuple devrait, dans la mesure du possible, faire attention. Mais je doute fort que vous ne pouvez pas raisonner un peuple, voyez-vous, c'est pas comme un individu. C'est vrai, nous pouvons donner des conseils, mais dans le feu de l'action, c'est toute autre réalité. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Ça fait 3 ans que le président, le chef de l'État au pouvoir, il a certainement mis en œuvre des politiques qui ont aliéné une partie ou une autre de la population, qui n'attend que ces élections législatives, justement, pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur désapprobation. Et quand vous leur enlevez ça, ça veut dire que vous les radicalisez davantage. C'est comme si vous frappez un enfant et vous lui interdisez de pleurer. Et ça va être difficile de faire entendre raison à un tel enfant. Voyez-vous. Donc c'est là le danger, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Est-ce qu'on a, encore, je ne sais pas, on a encore un bout de temps là?
Oui, allons-y. C'est intéressant ce que vous dites. Je pense que les auditeurs vont beaucoup aimer votre apport de solution, puisque ça illustre, ça met la lumière sur certains aspects qui n'ont pas encore été visiblement abordés. Et lorsque vous parlez également de ces populations, c'est très intéressant et certains ont été effectivement radicalisés par les réformes et qui attendaient que ces élections pour faire leur toilette et certains même menaçaient cette assemblée de fermer rapidement ses portes pour une nouvelle ère. Donc, merci et de continuer dans ce développement. Nous avons encore 5 bonnes minutes. On peut encore élargir un peu les réflexions. Donc, je vais d'abord rapidement, pour nous permettre de respirer un peu, une petite pause de quelques secondes. Je reviens tout de suite. Voilà, le docteur juste est avec nous. Nous aurions aimé l'avoir avec nous pour un peu plus que ça. Et avec le temps que nous disposons, qu'il dispose également, et pour permettre à cette émission de fermer. Et nous avons encore 5 minutes pour l'écouter. Et il a beaucoup de bonnes choses à nous dire. Nous n'avons même pas encore eu la chance d'aborder son ouvrage sur nous aurions le temps de revenir sur cet ouvrage dans une autre émission pour les auditeurs. Alors, nous allons maintenant faire le paquet. Faites-nous maintenant le résumé de cette réflexion, docteur Gist.
Alors, tantôt nous parlions de la population. Et je vous ai dit le danger ici de l'exclusion en guise de stratégie électorale, c'est de polariser la population en deux camps, voyez-vous. Et quand vous regardez aujourd'hui la structure de la population, de la démographie béninoise, vous avez beaucoup de jeunes en dessous de 25 ans. Donc une bonne partie de la population très active. Et quand vous étudiez justement les conflits armés, comme je le fais moi, l'un des facteurs dont il faut avoir peur, c'est une jeune et dynamique population désœuvrée et aigrie. C'est le danger, ça. Voyez-vous. L'implosion vient de cette frange de la population. L'implosion ne viendra pas de nos grands-pères, de nos grands-mères. L'implosion ne viendra pas de tous ceux-là qui ont du travail et qui sont fonctionnaires, non. L'implosion viendra de tous ces jeunes de moins de 30 ans qui sont désœuvrés et qui sont aigris. Et quand vous leur enlevez la seule possibilité d'exprimer leur aigreur, ça veut dire que le premier qui viendra leur proposer des alternatives, ils vont la saisir. Ils vont les saisir, ces alternatives. Voyez-vous, c'est là le danger. Et l'autre chose liée au contexte béninois qu'il faut prendre en compte, c'est que mes études montrent que l'un des facteurs qui a facilité ou qui a aidé à la paix au Bénin depuis 1990 à ce jour, ce sont les précédents que nous avons établis lors de notre transition démocratique. Et ces précédents, c'était essentiellement des précédents de compromis, de tolérance et d'unité. Voyez-vous. Ces précédents, nous les avons établis en invitant ceux qui étaient exilés de rentrer au pays, en accordant l'armistice à tous ceux qui ont même tenté de renverser le général Mathieu Kérékou à l'époque. Donc il y a eu un peu comme des précédents de tolérance, de pardon, et que nous avons établis lors de ce processus qui a conduit à la conférence et à la démocratisation du Bénin. Et plus tard, lorsque nous avons fait face à des crises telles que entre 1992 et 1996 sous le président Soglo, j'ai étudié la révolte armée conduite par le capitaine d'alors Pascal Taouès. Je l'ai étudié de fond en comble et je puis vous dire que malgré les tensions du moment, de l'époque, l'un des facteurs qui nous a sauvés, c'était les précédents de paix, de tolérance et de compromis que nous avions érigés lors des années 89-90. Et mieux, le président Kérékou, quand il est revenu au pouvoir, il a aidé à régler la question Taouès définitivement. Okay? Mais il l'a réglé, non pas en accordant le pardon comme la Constitution, tel que la Constitution lui donnait le pouvoir, mais plutôt il a demandé à l'Assemblée de voter une loi d'amnistie. Et au Parlement, il y a eu des oppositions. Okay? Ceux qui ont servi le président Soglo n'entendaient pas qu'on accorde le pardon aux anciens, ceux qu'ils appelaient anciens rebelles.
Bien sûr.
Et donc, les tensions étaient vives à l'Assemblée lors de des débats. Et l'une des choses qui nous a encore sauvés à cette époque, entre 96, 97 et 98, c'était encore les précédents que nous avons établis en 90. C'est sur ces précédents que beaucoup de parlementaires s'étaient fondés pour plaider auprès des gens comme Candide Azanayi, qui était l'un des opposants farouches à la loi d'amnistie, pour que finalement une majorité même de l'opposition puisse accepter voter cette loi d'amnistie. Ce qui a définitivement réglé la question. C'est pour vous dire que les précédents que nous posons peuvent nous aider en bien quand ils sont bien, mais ils peuvent aussi nous aider en mal quand ils sont mauvais. Alors, dans le cas d'espèce, les précédents de 90, comme je disais, aujourd'hui, une bonne majorité des jeunes que nous avons n'ont pas connaissance de ces précédents. Ils ne savent pas ces précédents. Donc, ils ont grandi dans un autre contexte. Et lorsqu'on va se retrouver dans une situation de crise, et quand eux, ces jeunes, seront confrontés à une décision, faut-il participer à la crise armée ou faut-il s'abstenir? Ces précédents de 90 n'auront aucun effet sur eux parce qu'ils n'en ont pas connaissance. Voyez-vous. Et donc, il faut faire attention et savoir que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ignorent ce facteur-là, que nous avons au sein de la population une bonne partie de jeunes actifs qui ont grandi dans un autre contexte. Ils ont grandi dans un contexte de manque de confiance. Ils ont grandi dans un contexte où ils voient des gens s'enrichir, et où ils se disent que, de toutes les façons, ceux qui sont au pouvoir ne peuvent rien pour nos problèmes. Donc, c'est tout un autre contexte. Il faut prendre tout ça en considération et ne pas se dire, parce que le Bénin a été à l'abri des soubresauts pendant ces deux dernières décennies, que ça va rester ainsi parce que la démographie change chaque jour que Dieu fait. Et cette démographie ne change pas en faveur de la paix, mais elle change en faveur des crises. Ou du chaos. Et donc, il faut l'intégrer dans l'analyse. Et j'espère que ceux qui ont à charge la conduite des affaires de l'État vont pouvoir prendre conscience et se dire que ce qu'ils font aujourd'hui peuvent leur profiter aujourd'hui, mais aussi ne manqueront pas d'avoir des conséquences sur demain. Et donc, le choix est le leur. Pour finir, si vous voulez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu, pour parler en parabole, comme si un père de famille ou bien des membres d'une famille décident d'entasser au fil des années ou au fil des mois des fagots de bois dans un pays où il fait extrêmement chaud. Ils entassent ça dans leur cour, sachant bien qu'il y a des enfants, sachant bien qu'il y a même des fumeurs dans la famille. Et un jour, par mégarde, un fumeur jette une cigarette, la maison prend feu, et puis on s'interroge. Alors, il faut se demander, mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'on aurait pu éviter l'incendie simplement en enlevant le fumeur de la famille, ou alors est-ce qu'il aurait dû éviter d'entasser des bois de fagots dès le départ dans une cour extrêmement chaude. Et c'est ce que nous, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous entassons de jour en jour des fagots de bois dans notre cour, sous une chaleur extrême, sachant qu'il y a des enfants, sachant qu'il y a des fumeurs dans la famille. Et quand je parle de fumeurs dans le contexte béninois, ce sont tous ces groupes armés qui entourent le Bénin, au Burkina, au Nigeria, au Mali. Ces gens, ils voyagent facilement. Ces gens peuvent être facilement achetés. Ces gens peuvent être facilement intégrés dans une crise. Et voilà pourquoi il faut éviter d'entasser des fagots de bois dans notre cour. J'espère que nous allons entendre raison.
C'est ça. Et pour éviter des services de terrain humide à ces facteurs rebelles qui nous entourent vraiment. Merci, docteur, pour toutes ces analyses. Et toutes ces réalités, je crois, vont servir à réveiller l'attention des uns des autres et aussi aux autorités qui sûrement vont, à travers cette édition, prendre note de ces réflexions et les convertir pour en faire bon usage. Et votre dernier mot, votre mot de fin, comme on dit maintenant.
Merci à vous de m'avoir accordé cette opportunité. Je travaille sur les questions de conflits armés, je les étudie, je les enseigne, et c'est avec peine que je vis ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Lorsque vous êtes dans une situation où vous recevez des émissaires de la CEDEAO, de l'ONU, ça veut dire que lorsque des gens sont disposés à payer des émissaires, financer leurs déplacements pour venir vous parler, ça veut dire que vous êtes dans une situation qui préoccupe. Au plan international, il y a ce que nous appelons désormais les mécanismes de pré-alerte, voyez-vous, pour les conflits internes. Et tout ce qui touche aux questions électorales est sensible, parce que c'est l'un des facteurs qui peut facilement faire basculer une société. Et donc, j'espère que nous allons chacun prendre conscience et éviter de traiter ces questions à la légère comme je le vois parfois sur les réseaux sociaux. Comme je dis, le feu ne viendra pas peut-être dans l'immédiat, mais si nous continuons de faire le drap ou de faire le lit au feu, il finira par s'installer. Et donc j'espère et j'invite les différentes composantes de la société, que ce soit le chef de l'État et sa majorité, que ce soit la minorité ou l'opposition, comme on dit, que ce soit le peuple, que ce soit les acteurs de la société civile, j'invite chacun à garder raison. C'est vrai, je sais qu'en ce moment, c'est très difficile à faire, parce que généralement, vous êtes pour ou contre quelqu'un. Mais on n'est pas obligé d'être pour ou contre. Il faut parfois prendre du recul, écouter la raison. Parce que le Bénin, il nous appartient à tous, autant Dieu aime les autres, autant Dieu nous aime, autant il aime les autres, mais nous devons nous-mêmes aimer le Bénin. Et si nous l'aimons, nous devons de remettre la balle à terre. Merci à vous.
Merci, docteur Juste Kodjo, qui a accepté d'être avec nous dans cette émission qui prend fin. Et Juste Kodjo, je vous rappelle, il est ancien officier supérieur des forces armées béninoises, avec plus de deux décennies d'expérience, actuellement professeur de stratégie et de sécurité internationale au Kentucky University et American University. Il est spécialisé dans les conflits et rébellions armées. Donc, je crois ici que nous avons été assez nourris de ces connaissances sur les questions liées aux conflits. Et les autorités, la diaspora, la population africaine et autres, et toute personne de bonne volonté qui aime avoir plus des connaissances sur ces réalités peuvent en tirer profit. Et merci, chers auditeurs. Je suis Gavin Conrad et pour vous dans cette édition Triangle qui se fait. Merci et à très bientôt.